D'habitude, quand on parle d'une scène de crime, on a tous un peu la même image en tête, non?
Ouais, le ruban jaune fluo bloquant une ruelle, les sirènes de police, ce genre de trucs.
Exactement, des enquêteurs avec des lampes torches qui cherchent des trucs super tangibles, genre une empreinte digitale sur un bout de verre ou une douille qui traîne par terre, c'est du concret.
C'est très palpable, c'est sûr. Et surtout, c'est immédiat. Le crime vient de se produire, donc l'air est encore chargé de tension, et les preuves sont, disons, toutes fraîches.
Voilà. Mais aujourd'hui, pour cette analyse, on va imaginer un instant que notre fameux ruban jaune ne délimite pas un parking en centre-ville, mais carrément l'univers tout entier.
Ah oui, on change d'échelle.
Un peu, ouais. Et l'événement qu'on cherche à élucider, il ne s'est pas passé hier soir entre minuit et 2 heures, mais il y a environ 13,7 milliards d'années.
Donc là, les petites poudres à empreintes, ça va pas beaucoup nous aider.
Bah non, c'est clair. Ça a l'air presque dérisoire. En fait, on montre dans ce qu'on pourrait appeler du CSI cosmologie, les experts de la scène de crime cosmique, quoi. Notre mission, c'est d'essayer de décrypter la toute première scène de crime, la naissance absolue de l'espace, du temps et de la matière, le Big Bang.
C'est sans doute l'investigation la plus vertigineuse qu'on puisse faire. Enquêter sur un événement vieux de plus de 13 milliards d'années, ça demande de repenser complètement la définition même du mot indice. Parce que bon, personne n'était là avec un appareil photo, tu vois.
Eh oui.
Du coup, il faut apprendre à lire les cicatrices, les espèces d'échos résiduels qui ont été laissés sur la scène cosmique elle-même.
Et justement, pour nous guider dans cette enquête colossale, aujourd'hui, on va se plonger dans les notes d'un enquêteur vraiment de premier plan. C'est le docteur Perry Phillips.
Un sacré CV d'ailleurs.
Ah oui, complètement. Il est astrophysicien, il a un doctorat de la très prestigieuse université Cornell. Et ce qui rend son approche de la théorie du Big Bang super captivante, c'est qu'il porte une double casquette.
C'est-à-dire?
Eh bien, d'un côté, il analyse tous ces indices cosmiques avec la rigueur mathématique hyper stricte de l'astrophysicien, mais de l'autre, il regarde ces mêmes données à travers le prisme de la théologie chrétienne, et plus spécifiquement, le concept de création ex nihilo, donc la création à partir de rien.
Ouais, et c'est un point de départ qui mérite vraiment qu'on s'y arrête 2 secondes. Parce qu'on a un peu ce réflexe dans le monde moderne de se dire que bah, l'astrophysique dure et la théologie, c'est 2 mondes totalement opposés. Qui s'exclut, quoi?
C'est souvent l'idée reçue, oui.
Alors que ce que le docteur Phillips propose dans ses travaux, c'est de regarder comment la mécanique vraiment froide des équations peut parfois faire écho à des textes ultra anciens, genre ceux de la Genèse.
C'est fascinant comme démarche. Et je pense que c'est le bon moment pour bien préciser notre posture dans cette exploration. Pour les gens qui nous écoutent, l'idée ici, c'est vraiment pas de transformer cette discussion en un débat religieux.
Non, pas du tout.
On n'est pas là pour endosser ou pour critiquer les convictions philosophiques de l'auteur, pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est la gymnastique intellectuelle. On veut voir comment un scientifique de très haut niveau arrive à tisser des liens entre la physique quantique et l'idée d'une intention créatrice à l'origine de tout.
Et ça sans jamais trahir la méthode scientifique.
Exactement. Donc on garde nos casquettes d'enquêteurs impartiaux, bien vissées sur la tête.
C'est indispensable pour garder une certaine rigueur. Et d'ailleurs, avant même de rentrer dans le vif du sujet, tu sais, les 3 grands piliers physiques du Big Bang dont on va parler, le docteur Phillips pose une sorte de base conceptuelle. Il attaque frontalement ce fameux conflit entre la science et l'intention.
La grande question, quoi. Est-ce que c'est seulement logique d'avoir 2 explications complètement différentes pour exactement le même phénomène?
Ouais, c'est souvent là que ça coince.
Franchement, je me suis posé la même question en lisant les sources. Si on a une équation mathématique parfaite qui nous dit de A à Z comment l'univers a démarré, est-ce qu'on a encore de la place pour églisser l'idée d'une intention ou d'un créateur? Est-ce que c'est pas juste redondant?
Bah, pour répondre à ça, il utilise une métaphore que j'adore. Elle vient de l'écrivain C.S. Lewis. C'est l'histoire toute simple d'une théière posée sur une gazinière.
Oui, la fameuse théière.
Voilà. L'eau se met à bouillir, la théière siffle, et là, quelqu'un dans la pièce demande « Pourquoi ?» Est-ce que c'est au bout?
Ça a l'air d'une question complètement bête au premier abord, mais en fait, c'est un piège philosophique assez génial. Parce qu'il y a une première façon de répondre, c'est d'utiliser le langage de la thermodynamique.
La réponse scientifique, en gros.
Ouais. On peut dire que le gaz a brûlé, ça a libéré de l'énergie thermique, et que cette chaleur a traversé le fond en métal de la théière par conduction.
Et ensuite, l'eau s'est réchauffée, elle est remontée par convection.
Voilà. L'agitation des molécules augmente tellement que l'eau liquide subit un changement d'état. Elle devient de la vapeur, la pression monte et paf, la théière siffle.
C'est super clinique, c'est mécanique. Et surtout, c'est 100% vrai. Personne ne peut contester cette chaîne de causalité physique. On pourrait se dire, bon, bah, l'affaire est classée.
Sauf que, Il y a une deuxième réponse, qui est tout aussi vraie et tout aussi incontestable. L'eau bout parce que tout simplement, Madame Lewis s'est assise dans le salon et qu'elle a eu envie de se faire une tasse de thé.
Et c'est là que ça fait tilt, parce que dire que Madame Lewis voulait boire du thé, ça contredit pas du tout, mais alors pas du tout, les lois de la thermodynamique.
C'est ça qui est dingue, l'explication scientifique, elle répond à la question du comment, l'eau bout, alors que l'explication basée sur l'intention, l'explication philosophique, elle répond au pourquoi l'eau bout.
C'est vraiment la clé de voûte de toute la pensée du docteur Phillips. En fait, comprendre le mécanisme du Big Bang, l'expansion, la chaleur extrême, la fusion nucléaire, ça ne disqualifie absolument pas le qui ou le pourquoi qu'on trouve dans la théologie.
Donc si je résume, la science fait la cartographie de toute la plomberie de cette théière cosmique, alors que d'autres disciplines se demandent juste pourquoi on voulait faire du thé au départ. C'est deux fréquences différentes qui cohabitent très bien.
Exactement. C'est super bien résumé.
Bon. Alors maintenant qu'on a posé ça, on peut retourner sur notre scène de crime, l'esprit tranquille. Chercher les équations, c'est pas un blasphème. Mais du coup, si l'univers a eu un commencement net, un vrai instant zéro, c'est quoi le tout premier indice tangible qu'on peut encore trouver aujourd'hui? On peut pas juste ramasser des cendres vieilles de 13 milliards d'années, quoi.
Non, c'est sûr. Le tout premier indice, le plus fondamental, c'est le mouvement.
Le mouvement.
Ouais. Et pour comprendre comment on a repéré ça, faut faire un petit bond dans le passé, genre au début du XXe siècle. Vers 1912, t'as un astronome qui s'appelle Vesto Slipher. Le mec passait ses nuits à scruter des nébuleuses et des galaxies hyper lointaines.
Le travail d'astronome classique de l'époque.
C'est ça. Mais il a remarqué une anomalie qui allait complètement à l'encontre du bon sens de l'époque. Ces galaxies, elles semblaient toutes s'éloigner de la Terre à des vitesses complètement folles.
Alors que, pour le contexte, à ce moment-là, c'était vu comme une véritable hérésie scientifique, non? Parce que le gros consensus, c'était que l'univers était statique et éternel, un peu comme une gigantesque boîte immobile.
Totalement.
Donc, logiquement, s'il y avait du mouvement dans cette boîte, par pur hasard statistique, on aurait dû voir autant de galaxies foncer vers nous que de galaxies s'éloigner, pas vrai?
Eh bien oui, c'est la logique mathématique d'un espace statique. Sauf que Slipher, et un peu plus tard Edwin Hubble, qui l'a fait de manière beaucoup plus systématique, ils ont capté que presque toutes les galaxies, sans exception, prenaient la fuite.
Mais attends, comment ils ont pu voir ce mouvement d'éloignement juste avec des télescopes de l'époque?
Ils ont utilisé un principe de physique qui est vraiment super élégant, l'effet Doppler.
Ah, l'effet Doppler, c'est bien ce truc avec les sirènes d'ambulance ou les trains.
C'est ça, et c'est exactement le même principe acoustique. Imagine que t'es sur le quai d'une gare, un train approche super vite en klaxonnant.
D'accord.
Eh bien, les ondes sonores du klaxon sont compressées, elles sont poussées vers l'avant par le mouvement du train lui-même. Cette compression, ça raccourcit les ondes, et du coup, ça donne un son super aigu à notre oreille.
Ouais, le fameux son strident qui t'arrive dessus.
Et au moment exact où le train te dépasse et commence à s'éloigner, pouf, les ondes sonores s'étirent soudainement derrière lui. Cet étirement, ça allonge l'onde et ça se traduit par un son grave.
Ouais, le fameux niao du train qui passe, quoi.
C'est une super imitation, c'est exactement ça.
Merci. Mais bon, Slipher, il n'écoutait pas l'espace, il n'y a pas de son dans le vide. Il regardait la lumière avec son télescope. Donc comment tu appliques un phénomène sonore à de la lumière?
En fait, la lumière, c'est aussi une onde. Elle se comporte pareil. Si une galaxie fonce droit sur nous, ces ondes lumineuses se compressent. Et dans le spectre visible de la lumière, les ondes courtes, c'est la couleur bleue. C'est ce qu'on appelle le blue shift, le décalage vers le bleu.
D'accord.
Mais si la galaxie s'éloigne à toute vitesse, la lumière s'étire pendant son voyage vers nous. Et les ondes longues, pour nos yeux, c'est le rouge. C'est le fameux red shift, le décalage vers le rouge.
Donc en gros, quand Slipher regardait dans son télescope, il voyait un univers baigné de rouge, c'est ça?
C'est ça.
Toutes ces galaxies au loin étaient teintées de ce red shift, ce qui prouvait de façon indéniable qu'elles fuyaient dans tous les sens. Et du coup, c'est là que Hubble débarque et qu'il pose sa loi mathématique.
Absolument. Hubble n'a pas juste dit « Hé, regardez, ça s'éloigne ». Il a mesuré tout ça et il a fait trembler le monde de l'astronomie. Il a prouvé que plus une galaxie est loin de nous, plus elle s'éloigne vite. C'est ça, la fameuse loi de Hubble.
Attends, je veux être sûr de bien piger le concept visuel. Parce que quand on me dit que tout s'éloigne de tout, j'ai l'image d'une énorme explosion cosmique, tu vois. Un peu comme une grenade qui pète, les éclats volent à travers l'air de la pièce. Est-ce que le Big Bang, c'est ça? Des galaxies qui volent à travers un espace vide qui était déjà là avant.
Non, et c'est super que tu poses la question, parce que c'est vraiment l'erreur la plus courante. C'est crucial de démystifier ça. les galaxies ne volent pas à travers l'espace. En fait, c'est l'espace lui-même, le tissu de l'univers, qui est en train de grandir.
Ah ouais ? Ok.
Ouais. Pour visualiser, les physiciens adorent utiliser l'analogie de la pâte à pain. Imagine que l'univers tout entier, c'est une grosse boule de pâte à pain crue, dans laquelle on a mis des raisins secs.
Ok, donc les raisins secs, c'est nos galaxies.
Exactement. T'enfondes cette pâte. Avec la chaleur, la levure fait son boulot et la pâte commence à gonfler. Les raisins, par contre, ils ne nagent pas à l'intérieur de la pâte. Ils sont complètement immobiles par rapport à la mie qui les entoure directement.
D'accord.
Mais comme toute la pâte gonfle, chaque raisin s'éloigne mécaniquement de tous les autres.
Ah, mais c'est hyper clair. Donc si je prends deux raisins qui sont très proches dans la pâte, la petite quantité de mie entre eux va gonfler un petit peu, donc ils s'écartent lentement.
Ouais.
Mais si je regarde deux raisins qui sont à l'opposé du pain, bah, y a une montagne de pâte entre eux. Toute cette pâte gonfle en même temps, donc ces deux raisins vont s'éloigner l'un de l'autre à une vitesse hallucinante. Ça explique parfaitement la loi de Hubble, en fait.
La mécanique est tout simplement imparable. Et ce qui est fou sur le plan humain dans cette histoire, c'est la résistance acharnée que cette idée a subie. Même chez les plus grands génies. Prends Albert Einstein, par exemple.
Quand même, pas n'importe qui.
Voilà, quand il a pondu la théorie de la relativité générale, ses propres équations mathématiques lui hurlaient que l'univers ne pouvait pas être statique. Ses propres calculs montraient que l'espace devait forcément être en expansion ou alors s'effondrer sur lui-même sous sa propre gravité.
Et du coup, comment il a réagi face à la réalité de ses propres maths ?
Il a purement et simplement refusé d'y croire. L'idée de cet univers éternel et immobile s'était tellement ancrée dans le dogme de l'époque qu'Einstein a trafiqué ses équations.
Sérieux ?
Il a ajouté un truc qu'il a appelé la constante cosmologique. C'était un facteur d'ajustement complètement arbitraire, juste pour annuler l'expansion et forcer l'univers à rester figé sur le papier.
C'est fou quand on y pense. Le père de la physique moderne qui invente un chiffre magique juste parce qu'il n'aime pas le résultat de sa propre découverte. Il a bien fallu que quelqu'un finisse par lui tenir tête, non ?
Ce quelqu'un, c'était Georges Lemaître. Un prêtre catholique belge, qui était aussi un physicien absolument brillant, il a pris les équations d'Einstein, il a viré ce facteur d'ajustement bidon et il a suivi les maths jusqu'au bout. Il a prouvé que l'expansion était la seule solution viable.
C'est génial.
Et quand Hubble est arrivé avec ses preuves visuelles du redshift, Einstein a bien dû s'avouer vaincu. Il a même dit plus tard que cette constante cosmologique avait été la plus grande bêtise de sa vie.
Tu m'étonnes. Mais l'histoire de Lemaître, elle s'arrête pas là. Parce que si on reprend notre analogie de la pâte à pain, la logique va dans les deux sens.
Comment ça ?
Bah, si l'univers grandit aujourd'hui, ça veut dire que si on rembobine le film de 13 milliards d'années, la pâte rétrécit, les raisins se rapprochent. Donc tout l'espace, la matière, l'énergie, ça devait être comprimé en un seul point, infiniment petit et dense.
Ce que Lemaître appelait l'atome primitif, ouais.
Mais attends une seconde. Si on compresse toute l'énergie de genre des milliards de galaxies dans un espace microscopique, ça crée pas juste de la densité, ça crée une chaleur complètement inimaginable, une vraie fournaise cosmique.
Et oui.
Et ça m'amène à une vraie question d'enquêteur. Si l'univers a commencé par un incendie aussi violent, où est la fumée ? Où est la chaleur aujourd'hui ? Parce qu'une combustion pareille, ça laisse forcément des traces, non ?
Ton instinct d'enquêtrice est parfait. Ça nous mène direct au deuxième pilier du Big Bang. Pense à un feu de camp. Tu te balades en forêt en plein hiver, tu tombes sur une clairière avec un cercle de pierre. Il n'y a plus de flamme, même plus de braise. Mais tu fais quoi ?
Bah, j'approche mes mains des pierres. Si elles irradient encore de la chaleur, c'est la preuve irréfutable qu'un feu a brûlé ici récemment.
Exactement. Et en cosmologie, il fallait trouver la chaleur résiduelle de ces fameuses pierres du Big Bang. Et la façon dont ils sont tombés dessus, c'est honnêtement l'une des histoires les plus absurdes de la science. C'était en 1964.
À l'histoire de l'antenne géante ?
Oui. Deux radioastronomes, Arnaud Penzias et Robert Wilson, travaillaient pour les labos Bell. Ils avaient cette immense antenne en forme de cornet acoustique géant, couchée sur le côté, pour capter des signaux spatiaux.
Et ils avaient un problème super énervant. Peu importe où ils pointaient ce truc, de jour, de nuit, vers la galaxie ou vers du vide absolu, ils captaient un grésillement de fond, un bruit sourd, permanent, qui voulait pas disparaître. J'adore le fait qu'au début, ils croyaient que c'était les ondes de New York ou un truc militaire.
Ils ont tout essayé. Ils ont traqué les interférences, refroidi les circuits à l'hélium liquide. Rien. Et puis, ils ont remarqué un truc beaucoup plus pragmatique. Des pigeons.
Ouais, des pigeons qui avaient carrément fait leur nid dans le cornet de l'antenne et qui faisaient leurs besoins allègrement.
C'est ça. Et dans leur rapport officiel, ils ont appelé les fientes de pigeons, avec beaucoup de diplomatie, un matériau diélectrique blanc.
J'adore. Ils ont dû grimper là-dedans avec des balais tout nettoyés de fond en comble.
Et quand ils ont rallumé la machine, tu sais quoi? Le bruit était toujours là. C'était pas un problème de pigeons. Ce grésillement de fond, qui venait de toutes les directions du ciel en même temps, avait une température d'environ moins 270 degrés Celsius. Juste un poil au-dessus du zéro absolu.
Et c'est là qu'ils comprennent qu'ils n'écoutent pas un parasite, mais carrément la naissance de l'univers.
Sans même le chercher, ils venaient trouver exactement ce que d'autres physiciens, comme Gamow, Alper et Hermann, avaient calculé des années avant. Cette chaleur infernale du Big Bang s'était diluée et refroidie avec l'expansion de l'espace. Ce bruit, c'était le fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile de notre feu de camp.
Ça donne vraiment le vertige, surtout quand le docteur Phillips fait le lien avec notre quotidien. Tu te souviens de ces vieilles télés cathodiques avec les petites antennes ?
Oh oui.
Quand tu changeais de chaîne et que tu tombais sur un canal vide, il y avait cette fameuse neige statique à l'écran, ce grésillement noir et blanc.
Bah, tiens-toi bien. Les physiciens estiment qu'entre 3 et 10% de ces interférences étaient directement causées par le rayonnement fossile du Big Bang qui frappait l'antenne de ta télé.
C'est ouf. Des millions de gens se sont endormis devant l'écho lumineux de la création de l'univers, sans savoir. C'est super poétique, je trouve. Et derrière, la technologie a pris le relais, avec des satellites qui ont cartographié ça.
Ouais, des satellites comme COB, WMAP, et plus récemment Planck. Ils ont pris de vraies photos de bébés de l'univers en cartographiant d'infimes variations de température de ce rayonnement. On voit l'univers tel qu'il était seulement 380 000 ans après le Big Bang. C'est d'une précision folle.
Sauf que, si j'ai bien compris, ces super photos ont révélé un truc un peu flippant sur nous. En calculant la masse et l'énergie totale avec ces données, ils ont trouvé un chiffre qui remet sacrément notre ego à sa place, non ?
Ah, ok, oui. C'est la grande leçon d'humilité cosmique. Ils ont découvert que la matière baryonique, c'est-à-dire tous les atomes, les protons, les trucs normaux, quoi.
Nous, la Terre, le Soleil, le micro devant nous.
Tout ça, plus toutes les galaxies visibles au télescope, ça ne représente que 4% de tout l'univers.
4%, c'est littéralement l'écume sur une vague. Et la question angoissante, c'est quoi les 96% qui manquent ?
Le grand mystère. On a environ 23% de matière noire, un truc fantôme qui n'émet pas de lumière, mais dont la gravité tient les galaxies ensemble. Et le reste, plus de 70%, c'est l'énergie noire.
C'est cette fameuse énergie noire qui vient compliquer notre métaphore de la pâte à pain. Parce que, logiquement, avec toute la masse des galaxies qui s'attirent mutuellement, l'expansion de la pâte devrait finir par freiner. Comme une voiture qui avance en roue libre, elle finit par s'arrêter.
C'est ce que tout le monde croyait. Mais à la fin des années 90, en regardant des supernovas très lointaines, les astrophysiciens ont vu que la voiture ne ralentissait pas du tout. Au contraire, quelqu'un appuie à fond sur l'accélérateur.
L'univers s'agrandit de plus en plus vite.
Voilà. L'énergie noire agit comme une force antigravité gigantesque qui étire l'espace.
C'est fascinant et effrayant. Mais revenons à nos indices de départ, parce qu'il nous manque le troisième grand pilier du Big Bang. On a l'expansion, on a le rayonnement de fond. Mais il y a un dernier truc. Si ce bébé univers était une fournaise pareille, c'était pas juste un feu de camp, c'était carrément un réacteur nucléaire, non ?
Le terme est parfaitement choisi. C'est l'ère de la nucléosynthèse primordiale, le moment où l'univers s'est mis à cuisiner ses tout premiers atomes.
Et là, j'ai un bug. On sait que les éléments lourds, genre le fer dans notre sang, ça vient des supernovas qui ont explosé des milliards d'années plus tard.
Ouais.
Pourquoi le Big Bang n'a pas fabriqué tout le tableau périodique d'un pouls ? Pourquoi il a fait presque que de l'hydrogène et de l'hélium ?
La réponse, elle est dans la difficulté extrême de la fusion nucléaire. Pour faire plus lourd que l'hydrogène, tu dois fusionner des protons entre eux. Mais les protons ont tous une charge positive.
Ah oui, et deux charges positives, ça se repousse. Comme si j'essayais de coller les deux pôles nord de deux aimants très puissants. Plus j'appuie, plus ils résistent.
C'est une super comparaison. Cette force électromagnétique crée une barrière énorme. Pour forcer ces aimants à fusionner, il faut une chaleur et une pression hallucinantes pour que les collisions soient assez violentes.
Donc le Big Bang avait cette chaleur, mais pas longtemps, c'est ça ? Vu que ça gonflait à toute vitesse.
C'est exactement ça, la magie des calculs. Les conditions extrêmes pour cette fusion n'ont duré qu'une fraction de temps très courte. C'est ce qu'on appelle les 3 premières minutes. Après ça, l'expansion a tellement refroidi et dilué l'univers que le grand fourneau s'est éteint d'un coup sec.
Et ça a figé la recette cosmique en l'état.
Mais du coup, en quoi c'est une preuve ?
Les physiciens théoriques ont sorti leur calcul quantique. Ils ont simulé ces 3 minutes. Et ils ont prédit qu'à la fin de ce court laps de temps, l'univers avait dû transformer pile-poil un quart de sa masse en hélium. 25%.
Et quand on observe l'univers vierge aujourd'hui avec nos télescopes, on trouve quoi ?
25% d'hélium, pile sur la cible.
La théorie validée par l'observation de façon magistrale, quoi.
D'ailleurs, petite anecdote marrante que le docteur Phillips rappelle. L'article sur cette découverte a été écrit en 1948 par Ralph Alfer et George Gamow.
Ouais, Gamow et son fameux sens de l'humour.
Voilà. Gamow trouvait ça dommage que ce soit juste signé Alfer et Gamow. Donc il a convaincu un pote à lui, le célèbre physicien Hans Bethe, de rajouter son nom sur l'article. Bethe n'avait absolument rien foutu pour ce papier, mais du coup c'était signé Alfer, Bethe, Gamow.
Alpha, bêta, gamma, ouais, c'est génial. Hein. Les mecs percent le secret de la création de la matière et leur premier réflexe, c'est de faire une blague.
C'est ça l'humour des physiciens. Mais bon, blague à part, si on fait la synthèse de tout ça, ça nous fait un dossier sacrément lourd.
Ah ça, oui.
Le docteur Phillips, pour résumer ça, il cite le livre de l'Ecclésiaste. Il dit « Une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. La théorie du Big Bang, c'est exactement ça. Elle repose sur 3 cordes indépendantes et massives. »
Le premier brin, l'expansion de l'espace, la fameuse pâte à pain qui gonfle.
Le deuxième brin, le rayonnement de fond, notre grésillement de pigeons et de vieilles télé, la chaleur fossile.
Et le troisième brin, c'est la recette des 3 premières minutes, cette abondance parfaite de 25% d'hélium. C'est vrai que les 3 réunis, c'est du béton armé.
Et ça nous amène à la conclusion un peu philosophique de tout ça. Phillips mentionne un certain Robert Jastrow, un grand astronome qui a bossé pour la NASA. L'ironie, c'est que Jastrow était agnostique. Il n'en avait rien à faire de réconcilier la science et la religion.
Il regardait juste les faits, quoi. Et il a dit quoi ?
Il dit, presque en s'en amusant, que toute cette astronomie moderne a poussé les scientifiques dans un cul-de-sac assez ironique. Selon lui, les découvertes astronomiques et le récit biblique de la Genèse pointent vers le même événement. Un commencement soudain. Un immense éclair d'énergie, venu ex nihilo, de nulle part.
C'est ouf d'entendre ça d'un scientifique pur et dur. C'est comme si l'équipe du CSI avait grimpé la montagne de la science pendant un siècle, et en arrivant au sommet, paf, ils trouvent un groupe de théologiens qui les attendait là depuis 2000 ans.
C'est une image assez puissante, ouais. Comprendre la mécanique de la théière, ça n'efface pas le mystère. Ça le rend juste incroyablement plus riche.
Et pour terminer, moi je repense à ce chiffre qui me hante depuis tout à l'heure. C'est 4%. La matière ordinaire. C'est complètement dingue de se dire que 13,7 milliards d'années d'évolution d'une si petite fraction de la réalité ont suffi à créer des planètes, de la vie et même des cerveaux humains conscients.
Des cerveaux capables de fabriquer des télescopes pour comprendre d'où ils viennent.
C'est Sam, ça rend super humble. Et je vous laisse avec cette pensée pour la prochaine fois que vous regarderez les étoiles. Si on a réussi à faire tout ça avec seulement 4% des ingrédients qu'on connaît, imaginez un peu quel mystère fou, quelle force complètement ahurissante se cache encore dans les 96% d'énergie et de matière noire dans lesquelles on flotte tous les jours. L'enquête cosmique ne fait que commencer, quoi.